Je vous rappelle donc que je vais, à partir d'ici, m'intéresser à la transition entre les dynasties des Ming et des Qing sous l'angle de la problématique de l'occupation, de la collaboration et de la résistance pendant et après la conquête mandchoue. Et je vais m'y intéresser en examinant quelques-uns de ces textes à la première personne dont je m'occupe depuis maintenant plus de 2 ans et dont je vous ai très brièvement rappelé la nature la dernière fois. Et comme je l'avais annoncé, je voudrais aborder cette problématique en commençant par un épisode à la fois très dramatique et très limité dans le temps, qui est donc cet interrègne Shun dont j'avais parlé, c'est-à-dire les quelques semaines consécutives à la prise de Pékin et au renversement du régime des Ming en avril 1644, du renversement des Ming non pas par les Mandchous, mais par le rebelle Li Zicheng, qui avait donc adopté ce nom dynastique Shun 2 mois et demi plus tôt, alors qu'il avait investi, ou plutôt réinvesti, sa région d'origine, qui est donc le Shaanxi, et qu'il avait installé sa capitale provisoire à Xi'an. Et nous avions vu que pour accéder officiellement au statut de successeur des Ming, Li Zicheng avait accepté en principe de devenir empereur, puisque rituellement on demande plusieurs fois avant qu'il dise oui. Il avait accepté en principe de devenir empereur quelque temps après son entrée dans Pékin et après le suicide du dernier empereur des Ming, et alors qu'il s'apprêtait à partir en campagne contre le général Wu Sangui, lequel était stationné à la frontière de la Mandchourie et refusait de se rallier à lui. Mais, comme je l'avais rappelé aussi, Wu Sangui s'était allié avec les Mandchous et tout cela s'était donc terminé en déroute pour Li Zicheng, qui n'avait pas attendu l'arrivée des Mandchous pour fuir à Pékin, pour fuir vers l'ouest, après être formellement monté sur le trône quasiment le dernier jour avant son départ. Au total, Li Zicheng était resté 42 jours à Pékin, ou en tout cas son régime, puisqu'il avait été en campagne pendant une partie du temps. Et je commencerai donc par parler de cet interrègne Shun, et après cela, nous retournerons dans des régions qui nous sont plus familières, en tout cas à ceux d'entre vous qui avaient suivi les cours précédents, c'est-à-dire au Jiangnan. Il y a en fait 2 textes que je voudrais examiner d'un peu près concernant cette affaire, mais je ne vais pas les aborder tout de suite. En effet, je voudrais d'abord préciser quelques points et surtout poser quelques distinctions concernant cette problématique de la résistance et de la collaboration, et cela va m'occuper une bonne partie de la séance d'aujourd'hui. Je crois en effet qu'il est important de les poser, ces distinctions, avant d'entrer dans le concret. Et c'est d'autant plus important si on l'aborde, ce concret, au niveau et du point de vue des individus, comme je m'apprête à le faire, bien sûr, puisque je parle de ces sources que j'appelle à la première personne, et qu'il s'agit en outre de sources qui se définissent par une certaine immédiateté, même lorsqu'elles ont été rédigées après coup. Or, ces expériences individuelles sont par définition partielles, déterminées par les circonstances, et la façon dont les auteurs en rendent compte est limitée par leur propre point de vue, par leur réaction personnelle, voire par leurs intérêts ou par ceux du groupe ou de la classe dont ils font partie. Mais, quelles qu'en soient les limites, leur perception des événements est également informée, chez la plupart d'entre eux, par un ensemble de notions auxquelles ils ont été formés, par exemple, par leur éducation, et aussi par la conscience qu'ils ont de problèmes qui les dépassent en tant qu'individus. Et c'est donc de ces notions et de ces problèmes que je voudrais à présent dire un mot. A priori, l'instance à laquelle on résiste ou avec laquelle on collabore, c'est un pouvoir illégitime, inacceptable pour les uns, plus ou moins acceptable pour les autres, pour toutes sortes de raisons, et avec toutes sortes de nuances possibles, mais un pouvoir dont le déficit de légitimité ne peut pas être contesté. Par exemple, dans le cas d'un pouvoir issu d'un coup d'État, par opposition à un pouvoir élu démocratiquement, quoi qu'elles puissent en penser, toutes sortes de personnes collaborent pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ou ne serait-ce que parce qu'il faut bien que la vie continue. Mais là où il n'y a plus de nuances possibles, où la situation est parfaitement claire, aussi bien pour ceux qui résistent que pour ceux qui collaborent, c'est quand ce pouvoir illégitime est exercé par un occupant étranger, qui s'est imposé par la force, autrement dit, par un envahisseur. Inutile de dire que ces notions ont une résonance immédiate pour nous, je veux dire en France, et pas seulement en France, bien sûr. Et à ce propos, d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de mentionner une remarque, qui est, à vrai dire, une incise, quelques mots, du grand sinologue Étienne Balasch, mort en 1963, dans une communication prononcée en 1954, donc 10 ans seulement après l'occupation allemande, que Balasch avait vécu cette occupation dans des circonstances particulièrement difficiles. Et cette communication, qui a été publiée en 1957, et c'est un article superbe, était consacrée à Hangzhou, la capitale des Song du Sud, et l'une des deux sources principales utilisées par Balasch dans cet article est la description qu'en a donnée Marco Polo. Or, et d'ailleurs l'article s'appelle, je vous l'ai donné en référence, sur la page Marco Polo dans la capitale de la Chine. Or, Marco Polo a visité Hangzhou après la chute des Song aux mains des Mongols. C'était donc une ville occupée, et la remarque de Balasch porte sur les effets à terme limités, dit-il, de l'occupation étrangère en ce qui concerne l'ambiance d'une grande ville renommée pour sa splendeur. Et voici exactement ce qu'il dit, je cite, « Sous le joug du conquérant, peu de temps après le siège des cavaliers barbares, en deuil pour la dynastie nationale déchue, ce n'était sûrement pas la liesse populaire, le luxe et la beauté d'autrefois. Cependant, et voilà l'incise que je voulais citer, cependant nous, témoins de plusieurs occupations, nous savons qu'on ne change pas du jour au lendemain le caractère d'un peuple ou d'une grande ville, il ressuscite toujours. » Balasch rapprochait donc ce que sa propre génération avait connu en Europe et ce qui s'était passé en Chine de nombreux siècles auparavant, au moment de l'invasion mongole. Et cette remarque que je viens de citer, nous pourrons en particulier la garder à l'esprit lorsque je parlerai des grandes villes du Tiangnan, juste après la conquête mandchoue. Quoi qu'il en soit, l'occupation et la collaboration, ce sont des choses qu'on a aussi connues en Chine. D'ailleurs, au même moment que l'occupation en France. Comme tout le monde sait, une partie importante de la Chine a été sous occupation japonaise pendant la guerre du Pacifique, et la Chine a aussi eu son gouvernement collaborationniste, ou plus exactement ses gouvernements collaborationnistes, aussi bien dans le nord, à Pékin, que surtout à Nankin et dans tout le bas Yangtze, y compris à Shanghai notamment. D'ailleurs, ce gouvernement qu'on appelle couramment fantoche de Wang Tingwei à Nankin a souvent été comparé au gouvernement de Vichy. Mais déjà sous les Qing, on a quelques exemples, quoique plus limités. Ainsi, lorsque les Anglais ont occupé plusieurs villes importantes pendant la première guerre de l'opium, donc en 1841-42, au Zhejiang et au Jiangsu, où ils ont fait beaucoup de dégâts et où ils se sont aussi emparés de l'administration, nommant leurs propres magistrats, etc., il s'est trouvé des Chinois pour collaborer avec eux, c'est-à-dire, disent les sources, pour exécuter leurs basses œuvres et rançonner la population. Et c'est d'ailleurs à cette époque que le terme « Hantian », qui semble dater du début des Qing, littéralement un traître aux Chinois, qui semble dater du début des Qing, en est venu à désigner des traîtres qui collaborent avec l'envahisseur. Des Han, donc des Chinois, qui collaborent avec les étrangers au détriment de leur propre race. Encore que, même à cette époque, je veux dire au moment de la guerre de l'Opium, et même par opposition aux Européens, le mot « race » soit à utiliser avec prudence. En fait, comme le montrent les recherches de notre collègue Zhang Ling de l'Université de Genève, le terme était déjà utilisé dans les correspondances officielles à la veille de la guerre de l'Opium pour stigmatiser les Chinois qui s'étaient fait embaucher par les marchands anglo-américains engagés dans la contrebande de l'opium. En revanche, à l'origine, au XVIIIe siècle, quand ce terme apparaît, le terme de Hantian servait apparemment à dénoncer les Chinois qui allaient intriguer avec les chefs tribaux dans les zones de minorité nationale, comme on dirait aujourd'hui, dans le sud-ouest, donc quelque chose de tout à fait différent. Cela dit, le mot Hantian eut assurément été très adapté au moment de la transition entre les Ming et les Qing, mais il semble bien qu'il n'existait pas encore dans cet emploi, même si c'est suggéré, je le signale au passage, sans référence dans ce qui est la Bible des dictionnaires chinois, c'est-à-dire le grand dictionnaire de Morohashi, dictionnaire chinois-japonais, qui dit qu'on a utilisé Hantian dès la conquête mandchoue, mais ce n'est attesté absolument nulle part. Quoi qu'il en soit, je ne chercherai pas à faire des comparaisons internationales au cours de mon exposé, parce que d'abord ce n'est pas mon propos, et ensuite cela m'entraînerait beaucoup trop loin. Mais je présume que dans bien des cas, les comparaisons ou les analogies s'imposeront d'elles-mêmes. Quoi qu'à vrai dire, ce soit plutôt les différences qui me semblent intéressantes. En tout cas, et même si je ne m'y attarderai pas, il vaut la peine de se demander, maintenant et de manière générale, comment ces notions de résistance, de collaboration, de légitimité ou d'occupation, telles que nous les comprenons, se transposent dans le cas qui nous occupe, autrement dit, dans le cas de la transition Ming-Qing. Or, dans le cas de la transition Ming-Qing, l'ambiguïté est tout de suite apparente. Certes, les Mandchous étaient un envahisseur étranger, et qui plus est, c'était des barbares. D'ailleurs, la notion d'un étranger qui ne soit pas en même temps un barbare, autrement dit, qui ne soit pas d'une espèce culturellement différente et inférieure, n'avait pas de sens en Chine à cette époque. Mais en même temps, il était théoriquement possible d'interpréter l'imposition de l'autorité mandchoue sur la Chine en termes de légitimité dynastique. Et c'est bien sûr ce que les mandchous eux-mêmes ont fait dès leur entrée en Chine, et ils l'ont fait en déployant une propagande intense, laquelle propagande visait aussi bien les populations qu'il fallait persuader de se soumettre sans résister, que l'élite mandarinale dont on encourageait la participation au nouveau pouvoir. Et une participation qui fut vécue non pas comme une collaboration honteuse ou cynique, mais bien comme l'accomplissement d'un devoir naturel au service d'un régime légitime. En d'autres termes, on essayait d'obtenir d'eux une totale adhésion. Dans ce discours martelé par la propagande des Qing, donc, et non sans efficacité, les Ming avaient perdu le mandat céleste en laissant s'installer la pagaille au sein de leur gouvernement et en démontrant leur incapacité à prévenir, à protéger leurs sujets. Pour sa part, Li Zicheng, le chef rebelle qui avait fini par abattre les Ming, avait démontré par son comportement incroyablement brutal et par les excès qu'il n'avait pas été capable de prévenir qu'il ne possédait pas les qualifications pour recueillir ce même mandat céleste. Alors que les Mandchous, eux, je parle toujours de leur propagande, que les Mandchous avaient vengé les Ming, ils leur avaient offert une fin honorable en quelque sorte, ils avaient prouvé leur aptitude à rétablir l'ordre et à permettre aux Chinois de retrouver le chemin de la prospérité, et enfin, ils s'étaient montrés capables de recueillir les insignes de la légitimité dynastique dans les formes sanctionnées par la tradition chinoise. En lui-même, le fait que les Mandchous étaient des envahisseurs d'origine allogène n'était pas nécessairement rédhibitoire. Nous parlons en effet d'un monde dans lequel, pour l'exprimer de façon très schématique, dans lequel ce n'étaient pas des nations théoriquement égales qui coexistaient ou qui s'affrontaient, mais où c'était des cultures se définissant par leurs différences et bien sûr, en tout cas dans la perspective chinoise, par leur hiérarchie, par le fait qu'elles étaient non seulement différentes, mais qu'il y en avait de supérieures et d'inférieures, la plus supérieure de toutes étant bien entendu la culture chinoise. Mais dès lors qu'une peuplade allogène s'assimilait les valeurs, les principes d'organisation, les modes de gouvernement, les références culturelles, etc., des Chinois, sans parler de la langue, il n'y avait pas nécessairement d'obstacle à ce que ces dirigeants s'installent sur le trône du dragon, comme on disait, à condition, bien sûr, qu'ils aient également fait la preuve de leur qualification à recueillir le mandat céleste. Ou disons que la notion d'une impossibilité proprement raciale et non pas culturelle à ce que les Chinois soient gouvernés par une peuplade étrangère semble avoir été extrêmement rare. À vrai dire, il en existe un exemple très fameux, et c'est l'exemple du philosophe Wang Fuzhi, qui est donc un loyaliste Ming tout à fait typique de la génération qui a vécu la transition, donc des gens formés sous les Ming et qui ensuite ont passé la deuxième moitié de leur vie sous les Qing. Mais Wang Fuzhi semble exceptionnel. Et il est intéressant de remarquer au passage que ses théories sur la séparation absolue des races, etc., ont été reprises avec enthousiasme par les révolutionnaires de l'extrême fin des Qing, lesquels révolutionnaires rejetaient les Mandchous précisément en tant que race étrangère. Mais ceci se passait au début du XXe siècle. Les Mandchous, comme on sait, sont allés très loin dans le processus d'assimilation culturelle et politique, ou de sinisation, comme on dit parfois. Beaucoup plus loin, en tout cas, que les Mongols de la dynastie des Yuan, par exemple. Les Mandchous avaient d'ailleurs commencé, dès avant leur entrée en Chine, en créant un certain nombre d'institutions calquées sur celles des Ming et en prenant à leur service des conseillers chinois experts en la matière. Et grâce à ces conseillers, les Mandchous se sont aussi très vite appropriés les concepts et la rhétorique de la souveraineté chinoise, le discours confucéen, si vous voulez. Et leurs conseillers chinois, qui rédigeaient toutes les pièces officielles de l'État Qing, par opposition à l'État Qing, par opposition à l'organisation tribale Mandchou, qui existait également, ces conseillers chinois donc ont su adapter très ingénieusement ce discours aux intérêts et à la stratégie de leur nouveau maître. D'où, bien sûr, l'efficacité de cette propagande dont je parlais, aussi bien les proclamations qui s'adressaient aux fonctionnaires et à la population, souvent, en général par voie d'affichage, que d'affichage souvent en avant de l'invasion par des espions ou des agents doubles, que les missives plus personnalisées qui étaient destinées à telle ou telle personnalité en vue qu'on essayait de convaincre de sauter le pas et de se rallier au nouveau régime. Mais si la dynastie des Qing a su remarquablement bien se couler dans le moule chinois, du moins au niveau institutionnel, au niveau du discours sur l'État et sur le bon gouvernement, et aussi en adhérant sans réserve à la grande tradition incarnée par les classiques, d'un autre côté, l'élite mandchoue qui était en train de s'emparer de l'Empire avec l'aide de collaborateurs chinois n'avait aucunement l'intention d'abandonner ses prérogatives et ses particularités ethniques. D'où l'ambiguïté dont je parlais. D'une part, le régime des Qing a tout fait pour se faire accepter comme régime appartenant à la succession légitime des dynasties qui ont gouverné la Chine, ce qu'on appelle le Datong, où Tong signifiait à la fois la série légitime des dynasties et l'unification de l'Empire. Et on peut dire qu'au terme de la période de transition, telle que je l'ai définie la dernière fois, le régime des Qing a brillamment réussi à se faire ainsi accepter. Mais en même temps, il a toujours tenu, de façon plus ou moins manifeste, et même de façon plus ou moins militante, suivant les périodes, à affirmer sa spécificité en tant que régime mandchou. Et cette spécificité se manifestait de différentes façons. Elle se manifestait d'abord au niveau institutionnel, dans la mesure où les institutions héritées des Ming étaient doublées par un certain nombre d'institutions qui, elles, étaient propres à la nouvelle dynastie, comme par exemple la direction de la maison impériale, donc le Neufu, qui était une sorte d'État dans l'État, entièrement dédié aux intérêts de la famille régnante, ou encore la cour des affaires coloniales, c'est-à-dire le Lifan Yuan, qui régnait sur tous les protectorats de Mongolie et d'Asie centrale, ainsi d'ailleurs que sur le Tibet, lesquels protectorats constituaient une sorte, dirais-je, d'empire extérieur, multiethnique, dont l'existence même était bien sûr une des spécificités essentielles du régime mandchou. Et à cela, il faut bien sûr ajouter l'institution des huit bannières, les bachi, c'est-à-dire cette organisation militaire hautement hiérarchisée qui gérait tous les aspects de la vie des sujets de la dynastie issus du noyau originel mandchou, ainsi que de ses premiers alliés mongols et chinois. Donc il y avait des bannières mandchous, c'est les plus importantes, mais il y avait aussi des bannières mongoles et des bannières chinoises. Et quand je parle des premiers alliés mongols et chinois, je veux dire les alliés d'avant la conquête, d'avant 1644. Et l'armée des huit bannières, donc, était le fer de lance de la puissance militaire des Qing, ou en tout cas, elle l'a été jusqu'au XIXe siècle, et elle était entièrement indépendante de l'armée régulière chinoise héritée de l'époque des Ming. Tout ceci, donc, c'était au niveau institutionnel, mais il y avait aussi, de façon moins institutionnalisée, un partage ethnique du pouvoir, ce qu'on a parfois appelé une diarchie, entre les Mandchous et dans une moindre mesure leurs alliés mongols et les Chinois. Un partage qui a beaucoup varié dans le temps et en fonction des circonstances, mais qui est toujours resté un des traits distinctifs du système. Et puis, il y avait les signes visibles, quotidiens, de la nature allogène du régime, à commencer par les garnisons des huit bannières, installées non seulement à la capitale, mais aussi dans un certain nombre de grandes villes à travers tout l'Empire, où elles étaient des villes dans lesquelles elles étaient cantonnées, dans des quartiers réservés, eux-mêmes entourés de murailles. Et pour le coup, ces garnisons ont toujours conservé le caractère d'une force d'occupation. Et finalement, il me faut mentionner dès ici une autre manifestation visible, ô combien visible, du fait que la Chine a vécu sous un régime barbare entre 1644 et 1911, et je veux parler bien sûr de l'obligation faite à tous les Chinois de sexe masculin de se raser la tête et de porter la natte à la mode mandchoue, une mode qui en fait avait des origines bien plus lointaines que la nation mandchoue. J'aurai l'occasion de revenir très en détail là-dessus, ou plus précisément sur les conditions dans lesquelles cette manifestation quotidienne et universelle de soumission à la domination mandchoue a été imposée aux Chinois immédiatement après la conquête. Car la thématique de la résistance, comme nous le verrons, est étroitement liée à cet aspect particulier des choses. Dans tous les cas, et je l'ai déjà suggéré dans ce que je viens de dire, des notions comme l'occupation, la résistance ou la collaboration, au sens péjoratif du terme, telles qu'elles s'appliquent à la Chine des Qing, doivent être envisagées dans le temps. La légitimité ne se décrète pas du jour au lendemain, elle se gagne. Ou plutôt, elle se prouve par le succès, d'abord par la défaite militaire des rivaux et des adversaires du régime, mais aussi elle se prouve par le succès sur le terrain, par l'aptitude démontrée à administrer le pays conformément au canon du bon gouvernement confucéen, ou d'une manière qui s'en rapproche le plus possible, à faire régner l'ordre, bien sûr, à pratiquer une fiscalité modérée et à garantir un minimum de développement économique. Comme je l'ai dit la dernière fois, je conclurai cette série avec une évocation de la première visite de l'empereur Kangxi à Suzhou en 1684, donc 40 ans exactement après l'entrée des armées mandchoues au Jiangnan. Et l'on peut dire, je crois, que c'est la durée qu'il a fallu aux Qing pour faire pleinement accepter leur légitimité en tant que dynastie impériale chinoise, chinoise entre guillemets, par à peu près tout le monde en Chine. Kangxi n'est pas allé seulement à Suzhou pendant cette première tournée d'inspection au sud, comme on appelait ses voyages, c'est-à-dire Nanxun, en 1684, mais c'est de Suzhou que je parlerai, parce qu'il existe un témoignage exceptionnel sur cette étape du périple impérial. Or, ce témoignage exceptionnel se trouve dans une source, elle aussi exceptionnelle, avec laquelle ceux d'entre vous qui avaient assisté aux deux dernières années de cours devraient être à présent familiers, puisqu'il s'agit du Linianqi, c'est-à-dire la chronique des années successives, de Yao Tinglin. Le Linianqi, je le rappelle en un mot, c'est une autobiographie chronologique qui couvre les 70 premières années de la vie de son auteur, lequel auteur est né en 1628 et était un natif de Shanghai. Si bien que ce texte nous permet de suivre la transition Ming-Qing dans tout son arc, vu depuis Shanghai donc, mais aussi depuis Songjiang et Suzhou, où l'auteur a beaucoup été, et en outre, pour reprendre l'expression que j'ai employée la dernière fois, vu depuis la base. Yao Tinglin n'a jamais été un loyaliste ou un résistant, pas plus que les membres de sa famille, laquelle était à la fin des Ming une famille lettrée, riche et influente, très riche, mais avait été complètement ruinée au moment de la conquête, si bien que Yao Tinglin a vécu très petitement pendant la plus grande partie de son existence. Il était, dirais-je peut-être, apolitique, mais ses observations extrêmement précises, extrêmement factuelles, permettent de suivre d'année en année l'évolution de la situation, la façon dont les événements retentissaient sur le petit peuple des contribuables ordinaires, la façon dont était perçu le nouveau régime, ou en tout cas ses représentants sur place, etc. etc. En 1684, donc, Yao Tinglin n'a pas trop de mots pour célébrer l'empereur Kangxi, lequel était encore un jeune souverain à cette époque. L'empereur Kangxi célébrait sa vertu, dont il dit qu'elle est égale à celle de Yao et Shun, les deux empereurs mythiques qui sont le modèle ultime de la royauté à la chinoise. Et cela, donc, Yao Tinglin le fait non pas dans une déclaration publique, mais dans un texte qui n'a rien de public, justement, puisque c'est un manuscrit rédigé par lui, pour lui-même et pour ses proches. Autrement dit, ce n'est ni de la propagande, ni de la flatterie. Il y croit. À cette date, en d'autres termes, la légitimité des Qing paraît pleinement reconnue, et cela dans une région où la résistance avait été très vive et où les Qing avaient mis du temps à en venir à bout. Comme je l'avais montré il y a 2 ans, l'autobiographie de Yao Tinglin permet de saisir dans toute son immédiateté la situation qui prévalait au Tiangnan dans les premières années du régime. Les Qing se sentaient alors extrêmement menacés au Tiangnan, et ils avaient de bonnes raisons. Il y avait encore beaucoup de gens qui rêvaient du retour des Ming, il y avait beaucoup de complots, il y avait des mouvements de résistance armée qui se déclaraient ça et là, et il y avait aussi des menaces extérieures à la région, mais très proches, comme celle du régime maritime de Zheng Chengong, auquel j'ai fait allusion la semaine dernière. Et de ce fait, la région vivait sous un régime de quasi-occupation militaire, les considérations de sécurité et de défense nationale primaient sur tout le reste, les demandes de l'armée avaient une priorité absolue, et tout cela se traduisait par une fiscalité extrêmement brutale et par des exactions sans fin. Et en outre, comme nous l'avions aussi vu, la classe lettrée, particulièrement nombreuse, influente et prospère à l'époque des Ming, dans cette région, était traitée sans ménagement. Les nouveaux maîtres de l'Empire n'éprouvaient visiblement, surtout les militaires, pas pour elle la considération qui lui était due, et au début des années 1660, elle avait même été en butte à une entreprise de matraquage fiscal qui menaçait de lui faire perdre une grande partie de ses privilèges. Je disais tout à l'heure qu'il faut envisager les choses dans le temps, et ce temps, c'est en bonne partie celui des générations. Pendant ces 2 premières décennies de la dynastie des Qing, que je viens d'évoquer très rapidement, la notion de résistance et son antonyme, la notion de collaboration, avaient encore un sens. Et elles ont continué d'avoir un sens tant que la génération ayant vécu à l'âge adulte sous les deux régimes restait active. Et ceci était particulièrement vrai pour ceux qui, ayant servi les Ming en qualité de fonctionnaires, ou simplement ayant reçu un titre académique sous les Ming, se trouvaient par ce fait même confrontés au dilemme classique, soit rester indéfectiblement loyal à la dynastie sous laquelle on est né et à laquelle on est lié par les honneurs et les fonctions qu'elle vous a attribuées, et la loyauté envers l'empereur était une valeur profondément intégrée par l'élite éduquée, soit au contraire, admettre la possibilité d'une attitude plus réaliste, c'est-à-dire qu'il soit acceptable de servir 2 familles, comme on disait, c'est-à-dire 2 lignées impériales, Ursing, et donc de reprendre du service sous le nouveau régime au prétexte que c'est dans l'intérêt du peuple, surtout quand les prétentions à la légitimité de ce nouveau régime semblent en effet confirmées. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce problème qui a non seulement été débattu à l'infini par les contemporains, pour qui c'était bien sûr d'une urgence dramatique, mais qui a également beaucoup occupé les historiens modernes. Dans son grand ouvrage sur la fondation de l'Empire des Qing, que je mentionnais la semaine dernière, par exemple, Frédéric Wakeman consacre de longs développements au dilemme en question et, d'une manière plus générale, à tous les problèmes concernant le loyalisme et la légitimité et à la façon dont les protagonistes se situaient par rapport à ces problèmes. Mais il me semble qu'il vaut malgré tout la peine d'esquisser brièvement l'éventail des situations possibles ou des options possibles parce que toute cette problématique est en arrière-plan des comportements concrets que j'étudierai à partir de mes sources à la première personne. Le nec plus ultra du loyalisme, c'était le suicide. D'abord, évidemment, quand on se trouvait acculé à un choix immédiat, par exemple, dans le cas des fonctionnaires ou des chefs militaires d'une place qui était sur le point de tomber et à qui il ne restait plus d'autre choix que la défaite ou la reddition, l'une et l'autre étant honteuses et l'une et l'autre étant ressenties comme une forme de trahison envers l'empereur. Et c'était un peu la même chose dans le cas d'un général tombé entre les mains de l'ennemi ou d'un fonctionnaire ou d'un personnage ayant, disons, une stature publique, tombé entre les mains de l'ennemi, qui préférait faire face avec défi, éventuellement les injuriant, à l'exécution plutôt que d'accepter les offres de service des vainqueurs. Et des offres de service que ceux-ci lui faisaient parfois avec le plus grand respect et en lui présentant des arguments qui n'étaient pas dénués de force. Il en existe une quantité d'exemples dans l'histoire et dans la légende, mais le plus célèbre de tous, sans aucun doute, et qui comporte certainement une part de légende, c'est le comportement héroïque de Shekefa, le défenseur de Yangzhou dont j'ai parlé la semaine dernière. Avant l'assaut sur la ville, donc sur Yangzhou, Che Kefa avait reçu plusieurs messages des dirigeants mandchous lui faisant valoir que le régime pourri des Ming du Sud ne valait vraiment plus la peine d'être défendu, que tout était de toute façon perdu, je veux dire que Yangzhou ne pouvait pas résister, et que eux, les Qing, avaient assumé la responsabilité de venger le dernier empereur Ming, lequel avait été contraint au suicide par un rebelle. Et enfin, il faisait valoir que les intérêts du pays et de la population comptaient peut-être plus que sa gloire personnelle à lui, Che Kefa, même s'il considérait qu'elle ne survivrait pas à un ralliement au nouveau régime. Cela étant, il n'y avait pas que ces suicides dans l'urgence du moment ou ces refus suicidaires de se rendre. Un nombre non négligeable de lettrés et de fonctionnaires, parfois même de leurs femmes, se sont donné la mort par noyade ou par pendaison ou en se laissant mourir de faim, en signe de deuil, après avoir appris le suicide de l'empereur et la chute de la capitale, simplement parce qu'il leur paraissait impossible d'être les sujets d'un nouveau régime, même sans avoir à se mettre à son service, a fortiori quand ce nouveau régime avait été fondé par des barbares, par ces gens qu'on appelait avec mépris des esclaves, des loups, qui était le terme employé pour parler donc avec mépris de toutes les peuplades du nord de la Chine, de la steppe ou de la Mandchourie. Loup, c'est littéralement un prisonnier, mais ça signifie un esclave de guerre, si vous voulez. Le suicide loyaliste était le nec plus ultra, disais-je. Et il n'est pas sans intérêt de noter au passage que la célébration ultime de ce comportement, nous la devons à un empereur mandchou, l'empereur Qianlong, dans les années 1770, qui a réhabilité toute une série de héros du loyalisme Ming en leur décernant des titres honorifiques. C'était, dans son cas, une démarche intéressée, une sorte de récupération, avec une utilité politique immédiate, car il s'agissait pour lui de monter en épingle la valeur ultime qu'il voulait inculquer à ses propres sujets, à savoir la loyauté absolue et sans concession à l'empereur. Et par une sorte de paradoxe qui a souvent été souligné, les hauts fonctionnaires et les généraux Ming qui, eux, étaient passés au service des Qing, comme ceux-ci les y encourageaient avec insistance et avec force argument, se sont retrouvés regroupés dans une catégorie non pas déshonorante, mais inférieure de l'historiographie officielle, la catégorie inventée par les Mandchous des ministres ayant servi deux régimes, c'est-à-dire les Erchen, littéralement les doubles ministres. Mais pour revenir à l'époque de la conquête, le suicide loyaliste, tout prestigieux qu'il fût, faisait débat. Je viens d'évoquer les arguments avec lesquels les Mandchous avaient essayé de convaincre Che Kefa que cela n'avait pas de sens de s'obstiner à soutenir un siège dont il savait que ça allait se terminer par un massacre. Or, ce sont des arguments qui ont trouvé un écho auprès de beaucoup de gens à cette époque, et je ne parle pas seulement des populations terrorisées par l'exemple de Yangzhou. D'autant plus que les Mandchous étaient très habiles à les distiller dans leur propagande. Et il y en avait d'ailleurs d'autres, d'arguments, comme par exemple la crainte d'abandonner ses propres parents ou d'interrompre la lignée de ses ancêtres en se donnant la mort. Un conflit, si vous voulez, entre la piété filiale et l'impératif de loyauté dynastique. Cela étant, beaucoup de lettrés loyalistes ont adopté une option différente qui était celle qu'on pourrait appeler de l'érémitisme, de la retraite, donc une forme de résistance passive, si l'on veut, se retirer des affaires et même se cacher pour ne pas avoir à faire face aux sollicitations des nouveaux maîtres de l'Empire. Et ces derniers, comme nous le verrons à travers plusieurs exemples, savaient parfaitement comment s'y prendre pour recenser tous les lettrés ayant un titre officiel, y compris les simples étudiants confucéens, autrement dit, pour faire en sorte que personne ne puisse se cacher sauf à renoncer à tous ses titres et privilèges. Or, renoncer à ses titres, c'est malgré tout ce que certains ont fait. Et pour mieux disparaître, un bon nombre d'entre eux ont choisi de se faire moine. Ce qui ne voulait pas nécessairement dire entrer en religion ou prononcer formellement des vœux, mais qui signifiait au moins prendre la tonsure et aller se mettre à l'abri dans un monastère. La vogue du bouddhisme était grande parmi les lettrés de la fin des Ming, et on peut imaginer que le refuge dans la religion était une tentation quand on traversait des temps aussi troublés. Mais même indépendamment de cela, nombre de monastères bouddhiques étaient des lieux de culture très fréquentés par les lettrés, et c'était donc un havre naturel pour eux. Et surtout, prendre la tonsure était une façon ingénieuse d'échapper à l'arrestation et à la probable exécution qui attendait toute personne ayant refusé de se raser la tête, conformément à l'ordre édicté par les Qing, sans pour autant obéir à cet ordre. Je me suis rasé la tête, mais c'est parce que je suis moine. Parmi ces gens qui se cachaient, parfois mais pas toujours en se déguisant en moine, dont certains étaient des militants plus ou moins actifs de la résistance anti-Mandchou, alors que d'autres étaient plutôt des sympathisants, ou simplement avaient décidé de se retirer de la politique, non sans mauvaise conscience pour certains, parmi tous ces gens, donc, quelques-uns nous ont laissé des journaux, le document à la première personne par excellence. Des journaux qui ont survécu à la disparition souvent brutale de leurs auteurs et qui ont fini par être publiés, parfois au XIXe siècle et parfois beaucoup plus tard. Bien sûr, il s'agit typiquement d'écrits de lettrés qui expriment les préoccupations et les soucis des membres de l'élite. Mais du fait même de l'accumulation des détails et des informations, ce sont des documents remarquablement vivants. Ils sont vivants du fait aussi de l'urgence de l'écriture, puisque les auteurs des journaux y consignent au jour le jour leurs tribulations, leurs actions, leurs rencontres, leurs angoisses, souvent aussi leurs soucis domestiques, le sort de leur famille et beaucoup d'autres choses encore. Certains de ces auteurs de journaux, donc par des gens qui s'étaient retirés immédiatement après la conquête mandchoue, certains donc sont très connus, comme par exemple Ye Shaoyuan, un ancien fonctionnaire et un poète très en vue de Wujiang, près de Suzhou, dont j'avais cité l'année dernière l'autobiographie, et qui a tenu un journal après avoir pris la tonsure, justement, au moment de l'invasion du Jiangnan, et jusqu'à sa mort 3 ans plus tard. Ou encore, autre exemple fameux, Qi Biaotia, dont j'avais également cité le journal à propos de son leadership dans le combat contre la famine à Shaoxing en 1641 et qui s'est suicidé en 1645 plutôt que d'accepter les offres de service des Qing. Et Qi Biaotia donc a tenu son journal quasiment jusqu'à la fin. Mais qui s'était caché donc à ce moment-là. Mais il y en a d'autres et j'en citerai quelques exemples si j'ai le temps. Mais ce que je voudrais dire au passage, c'est que le grand intérêt de cette littérature, me semble-t-il, et je n'en ai lu qu'une fraction, est d'illustrer à quel point la situation restait fluide pendant ces années de conquête, en tout cas tant que l'issue pouvait encore sembler incertaine. On croyait à la cause, à la résistance aux Qing, au renouveau des Ming, certes, mais d'un côté, on n'était sûr de rien ni de personne, et de l'autre côté, toutes sortes de contacts restaient concevables, même avec les nouvelles autorités, qui étaient presque toujours d'anciens fonctionnaires des Ming. On se cachait sans vraiment se cacher. Bref, ce n'est qu'après qu'un certain temps de latence, ou plutôt un certain temps d'extrême confusion, que les options sont devenues beaucoup plus tranchées et qu'il n'y a plus eu de choix qu'entre la soumission officielle ou la résistance à tout va. Autre option, donc, dans cet éventail de possibilités que j'essaye de résumer, autre option, la résistance, sous les formes les plus variées d'ailleurs. On complotait, on prenait des contacts un peu partout, on essayait de fomenter un soulèvement pour reprendre une ville, on s'alliait avec ces gens qu'on appelait les bandits des lacs, qui se sont beaucoup activés autour de Suzhou à un certain moment, ou alors on participait à la résistance en quelque sorte institutionnalisée, en se mettant au service des divers régimes des Ming du Sud, dont j'ai parlé la dernière fois. Beaucoup ont choisi la résistance dès le début, lorsque les Mandchous sont passés au sud du Yangtze. Mais par la suite, il y a eu aussi, il faut le signaler, des retournements dans l'autre sens, y compris des retournements de certains généraux chinois qui avaient joué un rôle important, qui s'étaient ralliés aux Mandchous dans un premier temps, qui avaient joué un rôle important dans la conquête du Jiangnan pour le compte des Mandchous et qui sont repassés au service des Ming du Sud. Quoi qu'il en soit, un certain nombre de loyalistes sont restés fidèles jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la défaite finale ou alors jusqu'à leur propre mort. Mais on en rencontre aussi beaucoup, et pas des moindres, qui ont renoncé une fois qu'ils s'étaient convaincus que c'était sans issue. Tous, d'ailleurs, parmi ces gens qui ont renoncé, ne sont pas rentrés dans le rang en se mettant au service de la nouvelle dynastie. Bien au contraire, c'est parmi ces anciens résistants, si vous voulez, ayant abandonné à un moment ou à un autre un combat qu'ils savaient perdu d'avance, C'est parmi ces gens qu'on rencontre certains des loyalistes Ming les plus connus du début des Qing. Des gens qui, donc, dans les premières années de la dynastie des Qing, gardaient un profil bas, qui restaient en contact les uns avec les autres, qui refusaient obstinément les avances des Qing, alors que ces derniers auraient voulu se les associer formellement, ne serait-ce qu'en leur décernant des titres académiques, car c'étaient des hommes de lettres souvent de grande réputation, et enfin, des gens qui entretenaient probablement le secret espoir que quelques rébellions finiraient par chasser les Mandchous. Je pense bien sûr aux trois plus célèbres penseurs de la seconde moitié du XVIIe siècle, à savoir Huang Zongxi, Gu Yanwu et Wang Fuzhe, déjà nommé, car tous les trois correspondent à des degrés divers à ce profil que je viens d'esquisser. Tout cela étant dit, il ne faut pas se cacher que l'immense majorité des lettrés et des fonctionnaires se sont soumis très rapidement au nouveau régime, qu'ils ont effectivement collaboré à ce qui ne pouvait être vécu au départ que comme une occupation, qu'ils l'ont fait le plus souvent sans état d'âme, par simple opportunisme, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur statut ou leur bien, ni mettre en danger leur famille, ou alors parce qu'ils ne désiraient rien tant que le retour à l'ordre. Je disais tout à l'heure que certaines comparaisons se font d'elles-mêmes et il me semble que cela s'applique ici. Ou même parce qu'ils étaient sincèrement convaincus que c'était pour le bien du pays. En tout cas, cet empressement à abandonner les Ming semble avoir suscité un certain mépris de la part des responsables mandchous et en même temps, ce qui était manifestement perçu comme une trahison des élites n'a pas été sans donner un coup de fouet à la résistance populaire, au moins au début de cette période et dans certaines occasions. Bref, je crois qu'on peut affirmer sans crainte de se tromper que le loyalisme Ming a été minoritaire pratiquement dès le début. Et à mesure que la génération née et formée sous les Ming passait la main, il s'est étiolé pour laisser la place chez certains lettrés de la génération suivante à ce que notre collègue Pierre-Henri Durand, qui a consacré un très beau livre à l'un de ses personnages, a proposé d'appeler un légitimisme Ming. Un légitimisme qui était plutôt une nostalgie et qui, en tout état de cause, ne contestait plus guère le pouvoir des Qing. D'ailleurs, un certain nombre de ces légitimistes Ming ont passé les examens, ont reçu des postes, ont même été proches des milieux de la cour, autant de choses donc qu'il n'eût pas même été concevable d'envisager pour la génération loyaliste qui les avait précédés. À partir de là, la notion de collaboration, au sens fort du terme, n'a plus vraiment de raison d'être. Quant à la résistance, pour autant qu'il y en ait eu, elle est devenue souterraine, sporadique, populaire et complètement coupée de l'élite lettrée. Et pour l'historien, elle est devenue pratiquement invisible, en dehors de quelques brefs épisodes de rébellions à très petite échelle, des événements qui se produisaient presque toujours à bonne distance des centres vitaux de l'Empire, donc dans quelques massifs de collines sur une frontière entre deux provinces souvent, et qui mobilisaient des petits groupes de marginaux brandissant l'étendard des Ming, parfois même exhibant un personnage qui prétendait descendre de la famille impériale des Ming, et qui ont toujours été réprimés avec la plus grande efficacité. Mais il est quand même intéressant de voir que ces révoltes se réclamant des Ming, même de façon très primitive et inorganisée, ont continué d'éclater jusqu'en plein XVIIIe siècle. Il y avait une mémoire, et j'ajouterais que cette mémoire a été réactivée plus tard, au XIXe siècle, au sein des sociétés secrètes qui ont fleuri à cette époque pour toutes sortes de raisons et dont beaucoup affirmaient, c'était quasiment dans leur règlement, affirmaient vouloir renverser les Qing, et restaurer les Ming. Et comme on sait, ces sociétés secrètes ont participé de façon extrêmement active au mouvement révolutionnaire de la fin de la dynastie, dont l'objectif déclaré était de renverser le régime mandchou et de restaurer, sinon les Ming, en tout cas un pouvoir chinois. C'est d'ailleurs à ce moment que les grands penseurs loyalistes de la transition Ming-Qing, les Huang Zongxi, les Wang Fuzhe, ont connu un regain extraordinaire de popularité alors qu'ils étaient quelque peu tombés dans l'oubli, et qu'on les a célébrés comme des précurseurs du nationalisme chinois et même comme des précurseurs de la démocratie. Cela dit, l'histoire obscure, mais certainement très intéressante et extrêmement difficile à étudier, du sentiment anti-mandchou sous la dynastie des Qing, donc en dehors de la période de conquête du début, cette histoire n'est pas mon sujet. Pas plus d'ailleurs que celle de ces grands lettrés loyalistes ou de ces chefs tragiques de la résistance qu'on a déjà étudiés tant et plus, et qui ont permis, ni non plus celle des généraux et des dignitaires qui, au contraire, sont passés du côté de l'ennemi et qui ont permis aux Mandchous de l'emporter. Dit autrement, ce ne sont pas les aspects héroïques de la transition Ming-Qing qui me concernent, ce sont bien plutôt ces aspects quotidiens, pour ne pas dire médiocres, vu de la base, comme je l'ai dit. Et encore une fois, c'est avec le genre de source auquel je m'intéresse qu'on arrive à mieux percevoir le comportement de ce marais hésitant, si je puis dire, et certainement majoritaire au sein de l'élite éduquée. Et il arrive que ces sources soient également révélatrices des réactions, pour le coup, populaires. Je voudrais donc commencer, j'y arrive enfin, par cette mini-transition qui a eu lieu à Pékin et en Chine du Nord pendant quelques semaines au printemps 1644 par l'interrègne Shun, donc. Cet épisode ne soulève pas les questions de race et de culture dont j'ai parlé tout à l'heure, bien sûr, puisqu'on restait, si je puis dire, entre Chinois. Il ne s'agissait pas d'une invasion étrangère, mais bien d'une rébellion intérieure, classique en quelque sorte, avec un leader charismatique d'extraction populaire, plutôt brutal comme personnage, mais entouré de conseillers venus du monde des lettrés fonctionnaires, un peu comme le fondateur des Ming, et c'est d'ailleurs une comparaison qui était faite par certains pour justifier leur adhésion, donc de ces gens qui disaient « oui, Li Zicheng, c'est une brute, mais pensez à Zhu Yuanzhang, c'était une brute aussi, et c'est devenu le grand fondateur des Ming ». Et d'une rébellion, finalement, qui a brièvement réussi, puisqu'elle s'est emparée de la capitale et qu'elle a chassé l'empereur du trône. Donc, le problème de race et de culture ne se posait pas, mais le problème du loyalisme, de la fidélité à la dynastie sous laquelle on a servi, se posait, lui, dans des termes très voisins du cas de l'invasion mandchoue. Et il se posait de façon particulièrement aiguë et immédiate pour les fonctionnaires de la capitale, car là, les choses étaient en quelque sorte concentrées entre quatre murs. D'abord, toutes les institutions centrales de la dynastie étaient là, et elles étaient directement au service de l'empereur. Par ailleurs, la densité en agents de l'État, petits et grands, aussi bien civils que militaires, était sans commune mesure avec ce qu'on trouvait même dans les plus grandes métropoles chinoises, comme Suzhou par exemple. À Pékin, il y avait littéralement des milliers de fonctionnaires. Autre trait distinctif, les événements qui s'y déroulaient avaient par définition un impact énorme dans tout l'Empire. Et enfin, la géographie même des lieux faisait qu'une fois l'ennemi dans les murs, avec des troupes disposées tout autour, il n'y avait plus beaucoup d'échappatoires. Comme je l'ai déjà souligné, le bref intermède pendant lequel Pékin est tombé entre les mains de Li Zicheng a été peu étudié. Et d'abord, il a été peu étudié parce qu'il est traité de façon très cursive dans les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire officielles, à un degré ou à un autre. Dans l'histoire dynastique des Ming, dans le Mingxi, par exemple, qui a été compilé sous Li Qing, achevé au début du XVIIIe siècle, la seule narration de ces événements se trouve dans la biographie de Li Zicheng, laquelle biographie apparaît dans une section des biographies de l'histoire dynastique, dans une section nommée « Bandit maraudeur », donc cette fois-ci, ce n'est pas Liu Ko, mais Liu Zhei, une section qu'il partage en fait avec le seul Zhang Xianzhong, l'autre chef rebelle dont j'avais parlé, et qui est placée à la fin des sections consacrées à des personnages négatifs, c'est-à-dire aux ministres félons, aux eunuques criminels, aux fonctionnaires factieux, etc. etc. Donc tout ça se termine par Liu Zhei, les bandits. C'est une biographie assez longue, la biographie de Li Zicheng est assez longue, mais l'épisode de Pékin qui nous intéresse occupe moins de 3 pages, qui sont d'ailleurs très tendancieuses. Pour étudier cet épisode de façon réellement détaillée et, si possible, réaliste, il faut par conséquent se tourner vers les sources non officielles, autrement dit, vers des témoignages ou des chroniques dont le ton et le contenu sont beaucoup plus libres que ceux des sources officielles, mais qui, évidemment, n'engagent que leurs auteurs. Et il en existe une grande quantité. Et c'est donc ce qu'a fait le seul historien à ma connaissance, à s'être intéressé de vraiment près à l'interrègne Shun, qui est de nouveau Frédéric Oeckmann, dans une longue étude parue dans un volume collectif en 1979, et ensuite dans son grand livre, où il a repris la substance de cette étude. Ainsi que je l'ai noté la semaine dernière, Oeckmann non seulement fait un usage abondant de ses sources privées, tellement typiques de la transition Ming-Qing, tellement variées aussi, et que j'ai pour ma part découverte avec beaucoup d'excitation il y a maintenant de longues années, mais encore, il s'intéresse occasionnellement à ce qui est mon sujet dans cette série d'exposés, c'est-à-dire la façon dont les événements sont perçus ou vécus depuis la base, au niveau quotidien, et de préférence perçus par des gens qui les subissent, ces événements, plutôt que par des personnalités pour qui il est important de se mettre en scène et de se justifier. Et c'est bien sûr un point de vue qui ne ressort que dans les écrits à la première personne, en tout cas dans certains d'entre eux. Le récit que propose Wakeman des jours qui précèdent la prise de Pékin par Li Zicheng, et plus encore de la courte période pendant laquelle la capitale a été sous sa botte, est extrêmement vivant. Il y a même des passages très prenants. Et la masse d'informations et de détails qu'il a réussi à extraire de toute cette littérature non officielle est réellement impressionnante. Et Wakeman est particulièrement bon lorsqu'il s'agit de faire passer une ambiance, et en outre, pour terminer, ces personnages ont infiniment plus d'épaisseur que dans l'histoire officielle, car ils s'expriment eux-mêmes et dans des écrits qui, très souvent, n'avaient aucune vocation à être publiés. Quant à la masse des habitants de Pékin pendant cet épisode, ballottée par les événements, tour à tour rassurée et terrorisée, elle est bien là, même si, inévitablement, elle ne s'exprime pas directement. Et plus tard dans mon exposé, je citerai des textes qui rendent la masse encore bien plus présente, mais cette fois dans les grandes villes du Tiangnan. Cela étant, on reste pour l'essentiel dans ce récit de Wakeman au niveau de la grande histoire, des grands débats et des grands problèmes, des événements dramatiques et de leur interprétation, et aussi des personnalités qui ont agi ou tenté d'agir sur cette histoire. Mais il n'y a pas que ces personnalités. Il y a quelques passages où il réussit à nous faire entrevoir et même à faire parler, il cite ses sources, ces fonctionnaires métropolitains de rang plutôt subalterne ou alors en début de carrière, qui, malgré quelques moments de panique, ont essayé de naviguer, ou pourrait-on dire ont tenté de se placer en quelque sorte aux interstices de l'événement et d'en tirer parti pour leur propre avantage, c'est-à-dire pour leur carrière. Cet opportunisme se donne parfois les arguments du réalisme, tout simplement. Les personnages en question peuvent même chercher à croire à l'émergence d'une nouvelle légitimité à laquelle on pourra trouver les meilleures raisons de se rallier. Tout cela n'est pas forcément du cynisme et en fait je serais plutôt tenté de parler encore une fois de médiocrité. Quoi qu'il en soit, c'est cette attitude qui m'intéresse parce qu'il me semble clair qu'à Pékin en avril 1644, comme ensuite ailleurs partout en Chine, ça a été l'attitude majoritaire, l'attitude réellement représentative du tout venant des fonctionnaires de la bureaucratie impériale et de leur mentalité, et au-delà des fonctionnaires, de tous les membres de ce qu'on peut appeler, si on veut, le mandarinat, et j'entends par là, de tous les lettrés qui avaient acquis un statut dans le stade du système académique impérial, un statut qui était automatiquement accompagné de privilèges, soit somptuaires, soit même matériels, qui étaient plus ou moins importants selon le rang. En dépit des doutes et de la mauvaise conscience exprimée par certains, et nous en verrons un exemple dans les deux textes dont je parlerai, la préservation de ce statut était pour cette majorité silencieuse la... Oui ?
Et l'armée dans tout ça ?
Attendez, là, je parle des fonctionnaires. Là, mais c'est une bonne question. J'ai parlé de l'armée et des généraux. Était pour cette majorité silencieuse la priorité des priorités, pour ne pas dire un impératif catégorique, bien plus que d'afficher une loyauté dynastique sans concession. Une loyauté dont les manifestations suicidaires étaient peut-être admirées, mais pas vraiment enviées. Nous en rencontrerons également beaucoup d'autres illustrations lorsque nous retournerons au Tiangnan. Les deux textes sur l'épisode Shun que je vais rapidement présenter, et j'entreprendrai de les examiner vraiment la prochaine fois, n'ajoutent pas de révélation majeure à ce qu'a mis en évidence Wakeman, mais ils y ajoutent du détail et surtout leur lecture suivie y ajoute du vécu, dans la mesure où elle permet de suivre le parcours d'un individu, un parcours qui en l'occurrence ne couvre qu'une toute petite partie de sa carrière, juste quelques semaines, mais justement ces quelques semaines chaotiques sont extrêmement révélatrices, elles dessinent bien un parcours avec un point de départ et un point d'arrivée. Et tous les détails, tous les incidents que recèle ce parcours lui donnent une texture, une texture qui est inévitablement perdue dans un exposé synthétique comme celui de Wakeman, où des détails frappants empruntés à une multiplicité de textes sont sélectionnés et isolés de leur contexte pour illustrer un argument général. Je vais donc parler de deux narrations à la première personne, des fragments d'autobiographie, si vous voulez, dont la première qualité, me semble-t-il, est leur caractère non apologétique. Certains personnages qu'on y rencontre, car il n'y est pas question que de leurs auteurs, il y a d'autres personnages apparaissent aussi, certains personnages qu'on y rencontre manifestent au début des sentiments loyalistes plus ou moins affirmés, et puis, très peu de temps après, ils se résignent à tourner kazakh et à se mettre au service de la nouvelle dynastie Shun, et très peu de temps après encore de la nouvelle dynastie Qing, cette fois, laquelle fait son apparition en quelque sorte par surprise à la fin du récit dans les deux cas. Et ces gens ne s'en vantent pas de ces retournements, mais ils ne battent pas non plus leur coulpe. L'auteur du deuxième texte reste, lui, loyal au Ming. À la fin, il réussit à s'échapper et à partir pour Nankin. Mais lui non plus ne se pose pas en héros. Il se sent en fait coupable d'avoir survécu à la chute de Pékin, coupable mais sans plus. Et il négocie en quelque sorte son parcours au milieu d'un environnement à la fois chaotique et semé de dangers. Comment ces textes, qui sont assez courts, en fait, ont-ils été conservés et ont-ils survécu à leur première édition, jusqu'à leur première édition imprimée, on n'en sait trop rien. Et la même question, en fait, se pose pour la plupart des quelques 200 ouvrages de même nature, 200 au bas mot, qui constituent le corpus des sources non officielles de la transition Ming-Qing. Ce chiffre de 200, soit dit, en fait, elle dit 199, je crois, soit dit en passant, est proposé par un autre auteur qu'on doit impérativement citer lorsqu'on parle de la transition Ming-Qing. Je veux parler de l'historienne américaine Lynn Struve, qui a non seulement publié des travaux importants sur la fin des Ming et sur les Ming du Sud, mais qui a aussi proposé une bibliographie très remarquable sur la transition, ce qu'elle appelle dans son titre sur le conflit entre les Ming et les Qing, conflit qu'elle fait durer de 1619 à 1683. Un ouvrage paru en 1998, donc, dont je vous ai donné la référence, et dont chaque entrée fait l'objet d'une description circonstanciée. C'est donc une bibliographie descriptive et analytique. Et cette bibliographie est précédée par un long essai sur l'historiographie de la période, c'est-à-dire non seulement les sources elles-mêmes, mais aussi leur destinée au fil du temps, leurs éditions, si vous voulez, et la façon dont les événements dont elles parlent ont été interprétés tout au long de l'histoire, depuis le début des Qing jusqu'à nos jours. Et donc, cet essai, je le considère comme une introduction tout à fait indispensable à toutes ces questions. Les deux textes dont je parle et que nous commencerons d'étudier et de lire la semaine prochaine ont pour titre respectivement Tiashen Yu Bian Jilue, qui signifie à peu près un récit abrégé des incidents auxquels j'ai été confronté. En 1644, Tiashen, bien sûr, ce sont les caractères cycliques de l'année 1644, et c'est un de ces couples de caractères cycliques que tout le monde comprend. Quand on parle de la catastrophe Tiashen, et une quantité d'ouvrages dans ce corpus d'ouvrages non officiels portent des titres qui commencent par Tiashen. Donc, les récits abrégés des incidents auxquels j'ai été confronté en 1644, et l'autre s'appelle Changzhou Tishi, récit des incidents à Changzhou. Et nous verrons que Changzhou est une sous-préfecture tout à fait au sud de la province métropolitaine où l'auteur s'est rendu. Mais ce qu'il y a exactement derrière ces titres, je l'expliquerai la prochaine fois. Disons qu'il s'agit dans les deux cas du récit des aventures de l'auteur pendant la courte période du règne de Li Zicheng à Pékin. Aucun des deux textes n'est mentionné dans la bibliographie de Lynn Struve, dont il est vrai qu'elle insiste dès la première page que c'est une bibliographie sélective. Très riche, mais quand même sélective. Le Yu Bian Jilue est cité à l'occasion dans les travaux de Wakeman, qui d'ailleurs interprète de manière, à mon avis, incorrecte le mot Yu Bian, qu'il traduit par « experiencing the dynastic change ». Donc, il traduit « bien » par « changement de dynastie », alors que ça veut simplement dire une catastrophe ou un gros incident. Mais donc, le Yu Bian Jilue est situé par Wakeman, mais il ne cite pas, ou en tout cas, il n'y a pas dans sa bibliographie, le Changzhou Tishi, le deuxième texte. Mais en revanche, les deux titres apparaissent dûment dans la grande bibliographie, également descriptive, de Xie Guozhen, qu'on peut appeler le patriarche, qui est né en 1901 et mort en 1982, qu'on peut considérer comme le patriarche des études sur cette période. Donc cette grande bibliographie, dont la version remaniée et augmentée date de 1981. la première édition qui était, enfin c'est très remanié, et la première version qui était d'ailleurs encore imprimée en forme chinoise traditionnelle, date de, je ne sais plus la date exactement, c'était avant la guerre. Cette bibliographie de Xie Guozhen se présente comme une étude des ouvrages de la fin des Ming, c'est son titre. Wan Ming, Shi, les ouvrages historiques, Kao, une recherche. Mais en réalité, il couvre toute la période de transition depuis le règne de Wanli, donc la fin du XVIe siècle, jusqu'à la rébellion des Trois Feux de la Terre, dont j'avais parlé la semaine dernière, au début du règne de Kangxi. Et c'est donc en consultant ce monument, car c'est vraiment un monument, cet ouvrage, qu'on peut voir que la première édition connue de l'un et l'autre texte est leur inclusion dans l'un de ces premiers grands tsonshu, c'est-à-dire de ces grandes collectanea, recueils de textes, consacrés à ce type de source sur la transition Ming-Qing. Un tsonshu donc, dont le titre est Ting Shui Shi, qui a été compilé par un certain Chen Hui Shi, dont on ne sait rien par ailleurs, et qui a eu deux éditions imprimées pendant l'ère Daoguang des Qing, donc entre 1821 et 1850. Et dans le titre, ces mots « ishe » qu'on trouve aussi, ou l'équivalent dans beaucoup d'autres titres de collections de textes de cette époque, désigne des ouvrages non officiels qui ont été dispersés, perdus un moment et retrouvés, tandis que les mots « ishe », donc dans le nom de l'auteur, signifie un ermite, un lettré reclus. Donc c'est un pseudonyme et on ne sait pas qui y a derrière. Comme le souligne Lin Struve dans son introduction, le Ting Chuo Yishe est un exemple typique de cet effort pour recouvrer les sources de la fin des Ming qui a été déployé tout au long du XIXe siècle par des auteurs dont la visée était historiographique et qui ne cherchaient, contrairement à ce qui a parfois été dit, qui ne cherchaient pas du tout à critiquer les Ming, les Qing, en manifestant un discret patriotisme pro-Ming. L'utilisation nationaliste et anti-manchou des témoignages de la transition Ming-Qing est un phénomène plus tardif qui date du tournant du XXe siècle. Mais alors on s'est mis beaucoup plus activement à publier tous ces textes et dans des éditions qui visaient un public bien plus large que celui des érudits. Et il en a été de même d'ailleurs à l'époque républicaine. Voilà donc pour les détails éditoriaux et la semaine prochaine donc, j'entrerai de plein pied cette fois-ci dans ces deux témoignages dont vous verrez qu'ils sont extrêmement vivants et personnels, sur les tribulations des fonctionnaires Ming au moment de la chute de Pékin, et aussi, ce qui est le plus important, sur leurs hésitations concernant l'attitude qu'il convenait d'adopter et qu'il était dans leur intérêt d'adopter au milieu de tous ces bouleversements politiques effrayants. Je vous remercie.